Vous êtes sur RTL.
Si. RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du Conseil européen, Charles Michel.
Bonjour Charles Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un jour historique, ce Brexit. Alors d'accord, on entre dans une période de transition qui va durer presque un an, mais c'est la première fois qu'un membre de l'Union européenne s'en va. Je sais que mercredi soir, au moment où le traité de retrait était acté, on a entendu des députés européens chanter à leurs homologues britanniques « Ce n'est qu'un au revoir ». Ça vous a ému ?
Oui, ce sont des sentiments partagés parce que cette aventure européenne était une aventure qui est fondée sur des valeurs, sur la volonté de travailler ensemble pour relever ensemble des défis. Et le fait que pour la première fois depuis la création de l'Union européenne, un pays important, la Grande-Bretagne, décide de quitter, c'est un moment qui est plutôt triste. Mais dans le même temps, je pense, devons avoir les manches retroussées. L'Union européenne a devant elle un agenda qui est clair. C'est le changement climatique, c'est l'agenda digital, c'est plus de sécurité, c'est protéger plus nos citoyens dans le cadre des transitions qui s'annoncent. Et donc, on doit être tout entier mobilisé pour porter un projet au plus près des attentes de tous les citoyens européens.
On va y revenir. Charles Michel, est-ce que c'est vraiment un au revoir ?
En tout cas, le souhait que nous avons au départ de l'Union européenne, c'est de garder la relation la plus étroite possible avec la Grande-Bretagne dans tous les domaines. Mais dans le même temps, on mesure bien que quand on n'appartient pas ou quand on n'appartient plus au club de l'Union européenne, il y a des conséquences. Mmh. Et ça veut dire que le message que nous donnons pour cette négociation qui va démarrer afin d'organiser la relation future entre l'Europe et la Grande-Bretagne, c'est très simple. Nous souhaitons garder la relation la plus étroite possible dans tous les domaines, mais au plus la Grande-Bretagne voudra diverger des standards européen, au moins elle aura accès au marché intérieur européen.
Mais c'est ça, alors on entend dire que cette négociation qui va durer 10 mois, elle sera presque aussi difficile que les 3 années que nous venons de passer. On se demande si on va pouvoir rester unis. Je vous donne un exemple, Charles Michel, sur la pêche. Il y a des zones de pêche dans les eaux territoriales anglaises qui n'intéressent que nous, les Français. Ça représente quand même 30% de la pêche en France, ça représente 75% pour notre seule région des Hauts-de-France. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que Boris Johnson tente de nous diviser entre Européens ?
Ils vont essayer de tirer parti
pour mettre un coin entre nous.
Dans la première partie de la négociation, il y avait aussi des dangers de division. Et je pense que le travail qui a été mené principalement par Michel Barnier, c'est-à-dire la transparence avec les États membres, le même niveau d'information, a permis en permanence de faire ce travail politique pour maintenir l'unité entre nous. Et c'est bien mon intention, avec Michel Barnier, avec Ursula von der Leyen, de travailler d'arrache-pied pour maintenir l'unité européenne qui est clé dans cette négociation. Elle a été dans la première phase, elle le sera dans la deuxième phase. Et nous devons effectivement utiliser tous les leviers que l'on a. La Grande-Bretagne n'est pas un adversaire, c'est un partenaire, c'est un pays ami. Nous partageons des valeurs, nous partageons une histoire et je suis convaincu que nous partageons aussi un avenir. Nous restons extrêmement proches de la Grande-Bretagne, mais nous sommes très lucides et très fermes. Dès lors que la Grande-Bretagne voudrait développer une stratégie de dumping pour tenter de faire mal aux économies européennes, plutôt jouir d'une compétition déloyale avec nos PME, ben nous n'accepterons pas. Et ça veut donc dire que notre souhait, c'est une négociation loyale, mais dans le cadre de laquelle nous défendrons fermement les intérêts des pays européens. Et vous savez, venant de Belgique, je sais que la pêche est évidemment un sujet important pour plusieurs pays, pas seulement pour la France.
Dites-moi, 10 mois, c'est un peu court, non, pour négocier? Il paraît qu'il y a 600 accords, selon Michel Barnier, justement.
C'est vrai, c'est un délai bref et dans la première phase, c'est la partie britannique qui a plutôt plaidé pour que le délai ne soit pas plus long que cela. Nous verrons dans les mois qui viennent. Nous savons qu'il y a une possibilité, pourvu que les deux parties le souhaitent, et c'est trop tôt pour pouvoir le dire aujourd'hui, de prolonger la période de négociation. Pour le moment, la partie britannique semble ne pas le souhaiter. L'Union européenne, nous verrons au fur et à mesure de la négociation et des progrès qui sont réalisés, quelle attitude nous adoptons.
Charles Michel, je le redis, vous êtes le président du Conseil européen. Qu'est-ce qu'on va perdre dans cette affaire? C'est quand même un poids lourd qui s'en va. C'est une économie forte, ce sont des dizaines de millions, 66 millions de citoyens. Qu'est-ce qu'on va perdre?
Mais moi, je vois si l'on va gagner.
Vous pensez qu'on va gagner?
Je pense que politiquement, ce vote, ce référendum, le traité de divorce qui a été signé il y a peu de temps, ça sonne comme un radio réveil pour l'Union européenne. Et moi, je sens autour de la table du Conseil européen les 27 chefs d'État et de gouvernement qui sont prêts à se retrousser bien plus les manches pour tenter davantage de coopérer, de travailler ensemble et de faire en sorte que l'on puisse, comme Union européenne, devenir demain le champion de l'économie verte, qui sera crucial à la fois pour faire reculer la menace climatique, mettre en œuvre les accords de Paris et créer des nouveaux emplois grâce à la recherche, grâce à l'innovation, pour progresser beaucoup plus en termes d'agenda digital. L'économie numérique est au cœur de la capacité de développement, de prospérité aujourd'hui, demain et après-demain. Et je pense que cet acte politique porté par la Grande-Bretagne nous amène aussi à être conscients qu'on doit beaucoup plus être maire de notre propre sécurité.
Charles Michel, vous dites on va sans doute y gagner, ça va nous donner un coup de pied aux fesses, hein, c'est un peu ce que vous dites. Mais est-ce que l'Europe n'est pas finalement plus fragile? On voit bien qu'on n'est même pas capable de faire une taxe sur les GAFA ensemble, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. On a eu du mal à se mettre d'accord à 27 et du coup, il n'y a pas de taxe européenne. Il y a votre collègue Guy Verhofstadt, belge comme vous, hein, qui va présider la conférence sur l'avenir, il a dit, il était assez en colère mercredi, le Brexit, c'est un échec dont nous sommes les auteurs.
Mais moi, je suis pas partisan de la lamentation. Moi, je suis partisan de l'action. Et je crois qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'Union européenne a permis de progresser. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si nous sommes un marché intérieur avec 500 millions de citoyens qui sont aussi des consommateurs, une grande puissance économique avec des valeurs fortes de liberté, de démocratie, d'état de droit que nous portons partout dans le monde. Alors oui, ce projet européen est un projet qui est difficile parce qu'il faut rassembler des gouvernements avec des coalitions, avec des parlements et des réalités
politiques. Parfois, on n'a pas les mêmes valeurs.
Toujours les mêmes. Je ne partage pas ce point de vue.
Avec la Hongrie de Orban, on n'a pas les mêmes valeurs.
Il peut y avoir, d'abord je pense qu'on doit distinguer l'action de gouvernement d'une part et des pays d'autre part, des populations d'autre part, et lorsqu'il y a des débats en lien avec des interprétations qui concernent des valeurs substantielles pour nous les Européens, mais vous voyez que le Parlement européen, le Conseil européen dispose d'instruments pour mener le dialogue, pour mener le débat et pour tenter de progresser. Et ça ne vise pas, à mon avis, que la Hongrie ou quelques autres pays européens.
Dans ou la tous Pologne les pays européens, qui est eurosceptique.
Dans tous les pays européen, on doit se demander comment on peut progresser sur l'état de droit. Aucun pays européen ne peut considérer que le travail sur l'état de droit est un travail qui est achevé. C'est un travail permanent. Comment améliorer les libertés personnelles, la dignité des citoyens. C'est un travail permanent, sans relâche.
Mais je reviens sur notre fonctionnement européen. Les règles d'unanimité, est-ce qu'il ne faut pas en finir? Parce que c'est aussi comme ça que les gens se méfient de l'Europe. C'est comme ça que les populismes gagnent du terrain. C'est parce qu'on n'arrive pas toujours à construire ensemble.
On a fait la démonstration il y a quelques semaines sur un sujet très difficile, le climat et la neutralité climatique à l'horizon 2050, on pouvait se mettre d'accord. Et on s'est mis d'accord en quelques mois à peine. Au début de l'année 2019, seulement 7 ou 8 pays européens étaient en faveur de la neutralité carbone avant 2050. En quelques mois, par le dialogue, par l'action, par l'argumentation, on a pu mettre en place cet objectif très fort et lancer dans le même temps, au mois de décembre, ce projet très ambitieux, ce pacte pour le climat, cet European Green Deal, qui est vraiment une occasion de dire à nos chercheurs, à nos entreprises, à nos PME, à nos jeunes, le climat, c'est maintenant. Et nous voulons en faire un objectif qui soit porteur de prospérité, porteur d'amélioration des cadres de vie. Et quand dans d'autres domaines, bien souvent, l'Europe a été à l'avant-garde. Quand on essaye de mieux protéger les libertés personnelles des citoyens, la vie privée par exemple, dans le cas du développement de l'Internet, ce sont les standards européens qui progressivement s'imposent dans le monde entier.
Ce sont de beaux projets, Charles Michel, mais est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans l'élargissement?
Ce qui est certain, c'est que l'on doit faire en sorte que l'on ait la capacité de protéger l'unité européenne, qui est une valeur très importante et qui est un patrimoine très important. Mais cette unité européenne, ce n'est pas au prix de l'immobilisme. Et on est dans un monde qui bouge, qui change. On doit donc être plus réactif. Il y a maintenant, vous savez, un nouveau leadership européen depuis quelques semaines seulement, avec Ursula von der Leyen de la Commission, moi-même comme président du Conseil européen. Et nous avons cette ambition très très forte de faire bouger l'Union européenne dans le bon sens. On voit clair sur nos priorités. sociétés. Et on mesure bien que l'on doit aussi faire en sorte que l'Europe soit plus aimée des Européens et travailler pour expliquer en quoi l'Europe est une valeur ajoutée qui garantit la dignité, qui donne des droits et en quoi on peut faire encore mieux, faire en sorte qu'il y ait plus d'affection pour le projet européen. Ça fait partie aussi de ce qui me motive personnellement.
Monsieur le Président du Conseil européen, est-ce que, à l'instar du Royaume-Uni, vous pensez que d'autres pays pourraient quitter l'Europe ?
Non, je ne le pense pas. Je pense même que c'est l'inverse. Je pense que ce qui s'est passé avec la Grande-Bretagne a été plutôt un signal pour beaucoup de pays européens, selon lequel l'Union européenne est un havre dans le cadre duquel on peut se projeter, avoir de l'ambition, dès lors que l'on accepte de travailler davantage ensemble.
Vous savez, il y a une question aussi qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut craindre un rapprochement entre les Britanniques et les Américains ? On voit bien que Donald Trump leur fait miroiter un super accord aux Britanniques. Ils ont des liens, ils ont une histoire commune, une langue commune.
Oui, mais les États-Unis ne sont pas un adversaire pour l'Union européenne. Les États-Unis sont un allié avec une histoire commune également, avec des valeurs communes. Mais nous ne devons pas être naïfs, nous devons défendre nos intérêts. Et c'est pour laquelle, moi, je plaide pour que l'Union européenne puisse s'exprimer plus fortement, pas simplement s'exprimer plus fortement, mais aussi agir plus fortement en coopération avec les États membres sur la scène internationale. Quand on est confronté à des difficultés en Libye, l'Europe doit être présente comme acteur politique, mais aussi avec des moyens pour amener de la stabilité, amener de la paix, c'est important pour nous. La France est très présente avec quelques autres pays européens dans le cadre du Sahel, ce qui est très important pour lutter contre le terrorisme, pour la stabilité en Europe. Je suis très mobilisé avec le président français et d'autres pour que plus de pays européens soient mobilisés, soient solidaires. Ça, ce sont des choses extrêmement concrètes et j'espère qu'on pourra engranger dans les semaines, dans les mois qui viennent, des avancées.
Charles Michel, deux petites questions pour terminer. Margaret Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne, a dit « on va regretter leur sens de l'humour ». À ces Britanniques. Vous aussi ?
Je lui réponds avec le clin d'œil que l'humour belge, ça n'est pas mal non plus.
C'est vrai. Est-ce que l'anglais doit rester la langue officielle ? Dès lors qu'ils ne sont plus là.
Vous savez, je pense qu'on aura l'occasion d'avoir les débats sur l'utilisation des langues. Plusieurs pays européens utilisent l'anglais également. Et il y a aujourd'hui un président francophone, et je m'exprime en français, je m'exprime en anglais également.
Merci beaucoup en tout cas. Nous étions ravis de vous recevoir. Merci Charles Michel.
Merci à vous.
Le président du Conseil européen, Charles Michel, qui se veut résolument optimiste et affirme même sur RTL ce matin, on va gagner avec ce Brexit comme un coup de fouet, par exemple pour l'économie verte, le climat ou encore la sécurité.